J'bugue encore.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les Échos du Charbon, nous avons une invitée toute particulière. Il s'agit de Mademoiselle K. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chanteuse, compositrice, guitariste et vous êtes actuellement tournée dans toute la France. Et vous avez une date ici à Nevers le 10 octobre, du coup, au Café Charbon. Donc cette tournée s'appelle 10 ans d'indépendance. 10 ans donc que vous êtes indépendante avec votre label Cravache. C'est important pour vous de mettre en lumière cette date-là ?
Ben ouais, en fait, je trouve ça cool de clore ce cycle. En tout cas, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Je sais pas... quelle sera la suite? Je sais juste que je prépare des nouvelles choses, un nouveau projet. Mais ouais, je trouvais ça important de marquer le coup parce que voilà, 10 ans, je suis toujours là, j'ai réussi à sortir 3 albums. Je tourne, je remplis bien les salles, il y a un public qui est là et c'est quelque chose quoi. Enfin voilà, je trouve ça important de le signaler. À une époque où c'est pas évident en fait de se maintenir, enfin globalement c'est tout le truc c'est de durer quoi. En général dans la vie c'est beaucoup de travail, mais je trouvais ça chouette de le souligner et voilà, c'est important de marquer le coup. Ouais.
On t'appellera, t'inquiète pas si ça nous plaît. Ouais c'est ça, je l'ai pas senti comme il faudrait.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est né Cravache, parce que vous mettez en avant surtout une phrase qu'on vous a dite à un moment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu du coup la naissance de ce gros projet?
Oui, en fait, j'étais en maison de disque, ça sur mes 3 premiers albums, j'avais fini Jouer dehors, qui était mon 3e. Et là, j'avais déjà annoncé quand même aux gens avec qui je travaille que j'allais faire un album en anglais. Hein. Je suis pas du genre à débarquer du jour au lendemain. Ça a été une longue prépa. Je suis allée à l'étranger, je suis allée à New York dans une école pour apprendre l'anglais. Après j'ai travaillé l'accent à Londres, enfin c'était vraiment une démarche, je voulais vraiment tenter ce truc de me lever un jour le matin et de penser en anglais comme je l'ai fait pour le français. Et donc c'est comme ça que sont venues les premières chansons d'Angry Dirty Baby. Et en fait à un moment la maison de disques m'a dit: écoute, on pense que c'est une erreur que tu fasses un album en anglais, tu vas perdre ton public, t'es Mademoiselle K, t'es une meuf qui fait du rock en français. Et en fait si tu fais pas ton album en français, on te produit pas quoi. Et moi je me voyais pas du tout revenir en arrière. Enfin c'est surtout que ça faisait vraiment partie d'une démarche artistique. J'ai une vraie passion pour cette langue, pour l'anglais. Et puis ça m'a ouvert une autre manière de chanter, et d'autres thèmes, d'autres choses à raconter. Il y a même pas à justifier. En fait je pense quand on est un artiste des choix qu'on fait, parce que à la base on fait de la musique pas dans des considérations financières et commerciales, mais parce qu'on fait bien ce qu'on veut. Et je pense que toujours la création ça doit être faire ce qu'on veut. Et des fois, il se trouve que ça suit la tendance et ça se vend bien. Puis des fois, ça se vend moins bien, mais ça doit pas être ça le curseur principal, quoi. Et donc, la maison de disque ne m'a pas soutenue. Et c'est là que j'ai monté mon label qui s'appelle Cravache, avec ce qu'on appelle un chef de projet. C'est celui qui travaillait avec moi en maison de disque à l'époque, qui s'appelle Julien Trollet. Et il a monté avec moi le label et voilà, quoi. C'est lui qui a géré énormément de choses de ce label et je lui dois vraiment beaucoup. Et c'est grâce à lui que j'ai pu... continuer aussi à penser musique et pas que gestion tous les alentours de la musique qui est la production, trouver les sous, voilà.
Oui, il vous a permis en quelque sorte de garder un espace de créativité pour que justement vous pouvez vous consacrer complètement à la musique et pas penser tout ce qui est un peu rébarbatif,
oui,
tout ce qui est administration.
Sachant qu'on y pense forcément parce qu'on est tout d'un coup, on se retrouve d'une maison de disques à des équipes plutôt un peu grosses à très peu nombreux, à prendre quand même aussi un attaché de presse au moment de la sortie de l'album et tout. Mais voilà, on est tout de suite aussi plus autonome sur tout, on gère plus de choses chacun. Et donc c'est à la fois plus de boulot et en même temps c'est très gratifiant d'y arriver. Et en tout cas c'est comme ça qu'on a monté donc mon label Cravache en 2015 et qu'on a sorti dans la foulée l'album Angry Dirty Baby. Et depuis donc il y a eu Angry Dirty Baby, donc l'album en anglais. Ensuite il y a eu Sous les brûlures, l'incandescence intacte en 2017. Et là le dernier qui s'appelle Mademoiselle K, mais qui est pour moi l'album sans titre, qui est sorti en 2022.
Et durant ces 10 ans d'indépendance, est-ce qu'à un moment vous l'avez regretté parce que justement la charge de travail était trop lourde ou justement c'était 10 ans de pure liberté?
Alors il y a un truc que je dis souvent, c'est j'ai été signée en maison de disque pour qui j'étais et puis j'ai été virée pour qui j'étais. Donc ça, là-dessus, on est quitte, j'ai envie de dire. J'ai continué, j'ai été signée en faisant vraiment ce que je voulais, hein, parce que des fois les gens se disent ah ouais, la maison de disque t'a contraint à, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas comme ça arrive aussi d'artistes qui signent en maison de disque et qui n'ont pas trop le choix qui se font fortement, on va dire, pousser dans un sens sur les directions artistiques. Moi vraiment j'ai toujours été respectée dans mes choix, j'ai fait tout comme je voulais, et donc sur les 10 ans d'indépendance, non, je regrette rien, d'autant plus que j'avais pas le choix. De toute façon, j'avais plus de maison de disque, donc fallait en faire une, parce que mon album, il était là. Et en fait, ce qui se passe, autant tant que j'ai pas de chansons, je peux rester à déprimer un petit moment parce qu'il y a rien, mais à un moment, quand arrivent les chansons, c'est vraiment une espèce de moteur qui arrive avec les chansons. Quand les chansons sont là, c'est elles qui me donnent envie d'y aller, qui me disent, bon, bah là, il faut les sortir, il faut faire quelque chose. C'est là, j'ai créé ça, je peux pas le laisser dans un coin de ma chambre. Il faut que ça sorte, et donc je vais me battre pour elle, quoi. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est ce que je crée, en l'occurrence, des chansons, des albums qui me font revenir au combat, quoi. Et donc, non, je regrette absolument rien. Enfin, encore une fois, je vois même pas à quel moment je pourrais avoir un regret. Le plus important, c'est de l'avoir fait. Et c'est vraiment des albums dont je suis fière et que j'adore chanter sur scène. Je chante pas mal, d'ailleurs, des titres de Hungry Dirty Baby, parce qu'il y a vraiment, il a vraiment une aura, cet album. Pour moi, c'est comme un premier album. J'ai eu Ça me vexe, qui est le premier album de ma vie. Et puis, il y a une autre fois où j'ai eu un premier album, c'était Hungry Dirty Baby. Il y a en fait cette énergie-là aussi. Chaque album est unique, quoi. Donc, c'est pas Ça me vexe. C'est aussi pour ça que je l'aime. C'est parce que c'est pas Ça me vexe. Mais c'est aussi un album très rock. Et c'est aussi, en plus, c'est fait en trio. Et quand c'est fait en trio, il y a quelque chose d'encore plus concentré, d'encore plus... je sais pas comment dire, mais c'est un vrai bonheur. Moi, c'est un moment où je découvrais la basse aussi, donc j'ai fait beaucoup de basse sur cet album. Ouais, donc non, aucun regret et fier d'être toujours là, en fait. Surtout, c'est aussi ça, quoi. On se parle là, parce que je vais faire un concert dans quelques jours au Café Charbon, et c'est trop bien.
D'ailleurs, durant ce concert, vous allez donc, comme vous l'avez dit, reprendre certaines de vos chansons les plus connues, mais aussi une nouvelle qui est sortie le 3 septembre. Donc oui. Il s'agit de J'ai bugué, qui sera aussi accompagnée, donc qui est sortie effectivement depuis le 3 octobre en 45 tours avec Amour Moitié. Donc, ce titre Amour Moitié, il sera disponible sur aucun disque, à part celui-là, et vous le proposerez aussi donc sur scène. Pourquoi avoir fait le choix de proposer ces deux chansons ensemble? Vous, il y a une histoire que vous vouliez raconter avec ce dernier 45 tours?
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça fait pas partie. C'est une histoire à part entière. Enfin, c'est en gros une histoire sur deux chansons. C'est un peu, il y a le début, J'ai bugué, puis ça se prolonge Amour Moitié. C'est un peu la suite de ce que la suite de l'histoire. Voilà, J'ai bugué, ça part d'un déménagement, changement de vie. Et j'en dis pas plus. Je laisse les gens découvrir la chanson. Vraiment. Je fais pas d'explication de texte parce que je trouve ça moins bien que le texte en lui-même. Donc je laisse les gens découvrir. Et ça commence par J'ai bugué, et la suite de cette histoire, c'est Amour Moitié. Et voilà. Et les deux chansons font partie d'une même histoire et font pas partie pour moi du prochain album. C'est une petite histoire comme ça à part entière, et c'est une étape intermédiaire entre le précédent album et le prochain, où il y a une vraie envie de. Je pense que le projet va être un peu différent sur la suite là. Enfin, je prépare un truc. Je peux pas en dire plus, mais voilà, c'était important pour moi à nouveau de sortir deux titres comme ça, sans le côté album. Et encore une fois, effectivement, ils feront pas partie d'un prochain album. Donc le vinyle, il est unique, quoi. Enfin, c'est vraiment qu'ils seront que sur ce vinyle-là de titres, et ils sont dispo sur toutes les plateformes de streaming. Mais voilà. Et puis en plus, c'est une manière aussi de. J'avais commencé. Quand je venais de monter Cravache, en fait, avant de sortir l'album Hungry Dirty Baby, j'avais sorti deux titres comme ça, qui eux, pour le coup, faisaient partie du futur album, mais c'était en attendant l'album. J'avais sorti Glory et Are You Swimming, pareil, sur un vinyle maxi 45, comme ça, un titre par face. Et là, c'était un peu différent, parce que c'était vraiment histoire un peu de préparer les gens à l'album à venir, quoi. Donc voilà, c'était une première étape avant l'album. Là, pour moi, c'est chouette parce que ça répond à ces deux titres-là faits il y a 10 ans, comme ça, sur un vinyle. Et en même temps, ça fera pas partie du prochain album. Donc, ça me permet de clore la boucle des 10 ans.
Et donc, ouais, le fait que ça sorte aussi en vinyle, je voulais revenir là-dessus. C'est ouais. aussi votre dernier album, vous l'aviez aussi proposé en vinyle. C'est une ouais. habitude personnelle que vous avez de votre côté de consommer en vinyle, ou c'est juste parce que vous trouvez qu'il y a le son, il ressort peut-être plutôt d'une façon différente qu'en streaming. Enfin, ouais, pourquoi ce choix du ouais. 45 tours ?
Alors, je précise que le dernier album, il est sorti aussi en CD. Hein.
Okay.
Donc, il y a plein de gens, et en fait, il se trouve que dans mon public, il y a plein de gens qui écoutent des CD encore. Voilà, je pense que c'est une certaine génération aussi, et en même temps, c'est un truc con, mais par exemple, dans la voiture, il y a encore beaucoup de lecteurs CD dans les voitures, et je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent des CD parce que dans la voiture, le système audio, c'est un truc avec un CD, donc c'est assez pratique, c'est moins cher aussi que le vinyle, donc je précise qu'il y a eu les deux, donc il n'y a pas de sélection. Après là, pour le deux titres là, en particulier, c'est que vinyle et stream, parce que ça n'a aucun sens, c'est une petite quantité, hein. J'ai pas fait énormément de vinyle. Et les CD, pour moi, ça a moins d'intérêt. Je trouve que avec le recul, c'est aussi que le vinyle, c'est un bel objet, quoi. Enfin, c'est grand, ça a une certaine, c'est tout de suite plus intéressant, je trouve, graphiquement. Moi, quand je suis fan d'un groupe, j'adore acheter, effectivement, je l'écoute en streaming, hein. J'écoute énormément de trucs sur les plateformes de stream. Mais quand j'aime un artiste, souvent, et que j'aime particulièrement un album, je le commande en vinyle. Et j'écoute des vinyles. Et c'est pas, alors oui, c'est le son. Il y a le grain du vinyle. Il y a vraiment un grain quand on écoute le son sur un vinyle qui est pas pareil que sur du stream. Mais il y a aussi la démarche, c'est con, mais de poser le vinyle sur le lecteur, de s'installer. On peut pas zapper d'un titre à l'autre. Enfin, si on peut, en se faisant chier à soulever ce qu'on appelle le diamant, et on peut, hein, passer d'une plage à l'autre. Mais la démarche, il y a un truc quand même où, à partir du moment où je mets un vinyle, c'est que je sais que je vais être posé dans mon canapé, je vais m'asseoir et je vais écouter, quoi. Et je suis dans une démarche vraiment d'écoute, et comme je prendrais un livre, je me pose et je le lis. Là, c'est pareil, quoi. Et puis quand s'arrête la première face, la face A, ben après je dois aller au vinyle, je le retourne. En fait, il y a un truc de présence. On n'a pas la même présence à la musique quand on décide de l'écouter sur un vinyle.
Puis le vinyle aussi, ça peut aussi servir d'objet de collection, de décoration. Donc effectivement, il y a plusieurs usages.
D'ailleurs, j'ai pas mal de fans qui m'achètent des vinyles, faut savoir, et qui me disent, mais j'ai pas de lecteur vinyle, hein, mais j'ai acheté. Alors du coup, ils se les encadrent. Alors ça, c'est complètement fou, parce que ça, pour le coup, je le ferais pas, moi. Mais l'air de rien, il y a pas mal de monde qui fait ça, qui achète sans avoir de lecteur. Ou alors, ils achètent le lecteur 2 ans après. Et voilà, c'est marrant.
Et je voudrais revenir aussi donc à votre label et à vos sorties d'albums. Donc vous l'avez dit un peu ouais. plus tôt que le dernier remonte à 2022 et que vous l'avez appelé du coup Mademoiselle K, comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps qui vous a permis d'écrire donc ces deux singles, J'ai bugué et Amour en moitié?
Qu'est-ce qui s'est passé? La vie. je sais pas comment dire. En général, à la fin, quand je finis un album et une tournée, déjà j'ai un petit temps en général, surtout en général on finit. Surtout que le calendrier habituel, enfin le planning en général, c'est on sort un album et dans la foulée on fait une tournée, et la tournée dure plus ou moins longtemps, mais en général moi après la tournée j'ai vraiment besoin de me poser. En gros, je fais très peu de musique souvent. Quand je finis une tournée, je prends l'air et je me demande régulièrement, depuis que je sors des albums, quand j'arrive en fin de tournée, qu'est-ce que je vais faire maintenant dans la vie? Et c'est une vraie question que je me pose régulièrement, et donc je me la suis posée aussi là, ça n'a pas manqué. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, arrivent des chansons, arrivent de l'écriture, arrivent des rencontres. Et là, notamment, les deux titres viennent aussi parce que faut savoir qu'ils ont été composés avec quelqu'un qui s'appelle David Enfrein. Il y a un projet qui s'appelle Terrier, que j'invite les gens à écouter. C'est un super projet, j'aime beaucoup. Terrier comme un terrier...
un terrier de lapin.
Okay. Exactement, j'allais dire de blaireau, de lapin, voilà. Et j'aime beaucoup son écriture de mots, notamment. Je trouve qu'il écrit très très bien. Je je suis assez fan de son écriture. Et en fait, on s'était déjà rencontrés il y a quelques temps. Et là, bah, en fait, on s'est retrouvés à se voir régulièrement. En fait, on s'est donné un rendez-vous toutes les semaines. On se prenait 2 jours de suite. Et puis vraiment, on jouait et puis on a joué sans savoir où on allait. Enfin, c'est comme ça que ça se passe souvent. Enfin, voilà. Et j'étais vraiment contente de cette rencontre parce que ça fait du bien. En fait, moi, j'aime vraiment l'interaction. Ce que j'aime dans la musique, c'est j'aime bien être toute seule dans mon coin, mais en vrai, j'aime surtout le partage. J'aime surtout jouer à deux, à trois. C'est là que ça devient drôle, quoi. Et c'est là qu'on se marre et c'est là qu'arrive un truc un peu fun, quoi. Et David, c'était ça. On s'est retrouvés toutes les semaines pour jouer. Et puis, à un moment, sont arrivés ces deux titres-là. Et c'était trop bien, quoi. Au début, j'ai bugué. Moi, j'ai pas du tout bloqué, justement, sur le morceau. J'étais plus à me dire, bon, il y avait pas encore le texte, il y avait juste la musique. Et David m'a dit, non, mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et du coup, on a enregistré un bout. Puis après, je lui ai dit, bah, tiens, je vais essayer une voix. J'avais 2-3 phrases de côté. Et puis, en fait, je me dis, ah ouais, c'est marrant. Enfin, bref, il y a un truc qui était cool. Et voilà, c'est comme ça que ça commence, des fois, une chanson. C'est, tiens, et j'ai ça dans un, j'ai 3 textes, 3 bouts de phrases dans un coin. Un bout de musique, on essaie de les coller, puis des fois ça colle pas, et puis des fois ça colle. Et, ou alors des fois on se dit, ah, c'est pas encore ça, mais ouais, il y a un truc, on sait déjà que ce texte-là va aller avec cette musique. Et à un moment, on sait quoi. Et on sait qu'après, il y a plus qu'à bosser beaucoup. Mais voilà. Et donc, c'est comme ça que sont arrivés J'ai bugué, Amour Moitié. Et Amour Moitié, on était à Londres, en résidence. En fait, on a eu la chance de pouvoir être dans un lieu, mais en plus, on n'y était que 4 jours. Et ça a été hyper inspirant. J'adore à chaque fois aller en Angleterre. Alors c'est une ville beaucoup trop chère, c'est abusé. Mais déjà on n'avait pas à payer de loyer, donc c'était cool. Et on est resté vraiment. Moi je pensais vraiment qu'on allait plus se promener dans la ville, et finalement on est resté à faire de la musique du matin à tard le soir. Et c'est comme ça qu'est arrivé Amour Moitié. D'abord c'était un instrumental où on s'est juste vraiment beaucoup marré. On a juste kiffé quoi. On a juste kiffé. Moi j'étais à la guitare, lui il était à la batterie électronique et sur des pads, et on s'est juste laissé porter. Voilà, on a kiffé et on a mis ce truc de côté. Puis moi, j'avais complètement oublié. Puis c'est plus 2 mois après, on a rouvert le dossier de tous les trucs qu'on avait enregistrés à Londres, parce qu'il y avait au moins 5 autres trucs avec. Et on est retombé sur ce morceau et j'ai fait putain, mais on l'a écouté. On s'est dit, mais c'était cool en fait et tout. Et du coup, voilà, pareil, comme ça, j'ai essayé de voir. Et c'est parti dans, c'est devenu Amour Moitié quoi. Enfin,
Je voudrais revenir sur le fait que là, vous ayez sorti des singles. Avant, c'était un album. Il y a un format que vous préférez entre les deux, ou c'était vraiment parce que là, c'était le moment, parce qu'on avait 2 chansons qui allaient bien ensemble, qui collaient bien ensemble, et donc fallait les sortir ensemble et pas les rattacher et qu'elles soient noyées dans un album, ou c'est parce que juste... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a un format que vous préférez entre les deux ?
Non. Bah, en fait, pour le coup, ouais, j'ai fait... En général, j'ai envie de dire, les gens sont plutôt habitués à ce que je fasse des albums, quoi, y compris moi. Et là, en fait, c'est pas, personne m'a rien demandé. Il se trouve qu'il y avait en fait cette tournée des 10 ans d'indépendance que, de toute façon, on voulait faire quand il y a, même c'était déjà le projet il y a maintenant 1 an. Ça fait 1 an que c'est le projet de faire de fêter les 10 ans de l'indépendance. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool quand même de sortir. J'en parlais avec Jean qui travaille, ça serait cool de sortir peut-être un ou 2 titres inédits à l'occasion, histoire que ce soit pas juste les ans d'indépendance, mais qu'il y ait de la nouveauté. Et effectivement, j'ai trouvé ça cool. Et il se trouvait que ces chansons, elles étaient là. Et en fait, en vrai, vous savez, il y a Brian Eno, j'aime beaucoup, il y a une phrase de Brian Eno qui dit « Music is budget and deadlines ». Donc la musique, c'est un budget et des deadlines, donc des échéances. Et en fait... c'est exactement ça, en fait. Il y avait cette tournée qu'on préparait pour l'automne, et je me suis dit, ok, donc l'objectif, c'est que j'ai ces 2 titres-là que je commençais dans lesquels j'étais, qui soient prêts, et le fait que ce soit pas un album, en fait, c'est, moi, je trouve ça cool, ouais. En fait, j'avoue que ça me fait du bien, une sortie comme ça, hors album. Il y a, je sais pas, il y a moins de pression. Alors, en même temps, je sais aussi que c'est moins de visibilité, hein, sortir juste 2 titres par rapport à un album. Et en même temps, j'aime bien qu'ils soient un peu, juste comme ça, 2 titres ensemble. C'est pas un album, il y a pas ce gros truc. Allez, on sort un album, on sort l'artillerie. Je sais pas, j'avais envie de quelque chose de
plus léger,
simple comme ça, comme des fois quand on commence, hein, vous savez, les artistes qui commencent, des fois ils sortent un EP. C'est la grosse tendance, c'est les EP, vous savez, c'est un format court où il y a 4-5 titres, mais il y en a aussi des fois qui sortent 2 titres puis 2 autres. Vous voyez, en fait, je trouve ça cool à nouveau cette ça me fait un truc frais aussi de me dire, tiens, je sors juste 2 titres là et ils font pas partie du prochain album, parce qu'effectivement il y a d'autres chansons en cours et pour moi c'est pas au même endroit. Et je trouvais ça cool aussi de pas attendre, de me dire, ben, en fait, parce que, effectivement, je suis plutôt du genre à décantation longue, et des fois, je peux avoir un titre qui est prêt, en vrai, au bout de 6 mois, mais je lui laisse encore 1 an de plus pour mûrir. Alors c'est pas que je fous rien dessus, c'est juste qu'il y a un temps de décantation, c'est voilà, c'est comme ça. Et là, ça faisait aussi du bien à nouveau d'être dans une échéance plus courte et de me dire ah, j'ai moins de temps que d'hab parce que je me suis donné ça comme timing et en même temps pour les enregistrer, les mixer, les masteriser, vous voyez. Et en même temps, ça fait du bien aussi à nouveau de dire j'ai pas trop de temps, j'ai pas trop le temps de réfléchir et puis c'est cool, ce sera peut-être plus imparfait qu'en temps normal et en même temps c'est bien, c'est pareil, c'est une manière de lâcher, de voilà. Donc en fait que ce soit deux titres hors, justement hors format, pour moi c'est moins de pression et c'est un truc de me dire allez c'est cool et puis de toute façon je sais qu'ils feront pas partie du prochain album parce que le prochain album c'est sur un concept vraiment particulier, c'est un truc nouveau que je veux faire dans ma vie. Et encore une fois, j'en dis pas plus, mais voilà. Et donc, ces 10 titres-là, je trouve ça bien. Ils font partie de cette histoire-là maintenant.
Pour venir, ouais, j'avais une dernière question, notamment par rapport, c'était plus par simple curiosité. Ouais. Votre carrière, vous l'avez démarré plutôt rapidement en trombe avec un succès qui arrivait très vite avec le titre Samvex. Ouais. Vous l'avez vécu comment ce moment-là, de passer de l'ombre à la lumière du jour au lendemain?
Alors, c'est ça m'avec, mais c'est aussi jalouse. J'ai l'impression que même jalouse, elle a été encore plus impactante quand je vois comment elle continue d'être reprise des fois dans les, vous savez, les trucs de ce qu'on appelle les télécrochets.
Enfin, les concours télé de chant.
Merci, exactement, les trucs de chant. Ouais, ça a été assez déstabilisant. Clairement, c'est un truc qui m'a un peu bousculée. Parce que je comprenais pas que y a des gens qui se sont mis à me reconnaître, à m'interpeller dans la rue, mais parce qu'ils m'avaient vu à la télé, ils connaissaient pas forcément ma chanson, mes chansons, et ça c'était très bizarre parce que il y avait une espèce de décalage pour moi entre vraiment ce qu'on appelle la fame et un truc où on a juste vu votre gueule à la télé et donc tout d'un coup vous êtes sur une espèce de piédestal démesuré et en même temps les gens connaissent pas du tout votre musique alors que vous êtes là pour votre musique en fait. Enfin c'est votre musique qui vous a fait arriver là. Mais du coup, c'est comme si ça séparait, il y a une séparation complète entre la musique qui fait que vous êtes devenu célèbre à un moment et le fait juste qu'on vous ait vu à la télé, quoi, vous voyez. Et donc, c'était. Moi, je suis vraiment une meuf sensible aux relations vraies et à une certaine manière de pas être hypocrite ou quoi. Donc, je me disais, mais pourquoi les gens, Et il me parle, j'étais vraiment sauvage au début, alors je répondais aux gens et j'étais hyper touchée, hein, par ailleurs. Mais quand c'est beaucoup, des fois, dans une journée, ou que c'est surtout quand les gens n'ont pas de, vous abordent vraiment, sans délicatesse, comme ça a pu arriver des fois, en vrai, c'était rare, mais moi, ça me touchait vachement. J'étais là, waouh, j'étais un peu, je me sentais un peu, c'est une période où j'ai beaucoup rêvé qu'on rentrait chez moi par la fenêtre. Enfin voilà, j'avais l'impression de perdre toute mon intimité en fait. C'est marrant quoi, parce qu'en fait, je parle de Sam Evex où je dis ouais, où quelque part je demande la fame. Et puis quand je l'ai eu, je l'ai rejeté. c'est parce que ouais, c'est trop en fait. Je pense que c'est trop. Et puis encore une fois, je pense que c'est le décalage entre l'image et la musique. Encore une fois, ouais, c'est comme si les gens m'abordaient pas pour les bonnes raisons. Voilà, c'était, je pense, ça qui me bousculait. Après, maintenant, ça fait un petit moment. Et les gens encore des fois m'abordent et ça me fait plaisir et en vrai les gens sont toujours adorables et pour en plus avoir été en position moi-même des fois de vouloir aller remercier un artiste parce que je comprends en fait quand un artiste vous touche, je comprends qu'on a envie d'aller dire mais merci, c'était chambé, je comprends qu'on ait besoin de partager ça et je le vois mais ça demande un courage en vrai de le faire et donc j'ai envie de dire surtout avec le recul merci à tous ces gens qui ont osé venir me voir et qui ont osé comme on dit casser la petite vitre la petite vitre de trac ou de comment on dit briser la coquille, c'est comme s'il y avait la petite enveloppe de protection et quand même ça demande un sacré courage de venir parler en se disant en ayant peur de se prendre une tôle quoi et je comprends en fait et donc en fait en vrai c'est hyper courageux et en même temps c'est super mignon d'y aller doucement parce que c'est aussi très respectueux et donc bref ouais ça a été très déstabilisant et jusqu'à ce jour je suis mi ombre mi lumière vraiment je pense que jusqu'à ce jour il y a ce truc où je trouve ça tellement assez dingue quand vous êtes très très célèbre ce que ça apporte bien sûr de haters aussi hein. Enfin j'ai envie de dire en gros à partir du moment où vous avez des haters qui arrivent vous savez que c'est parce que vous avez de la fame. Si vous n'avez pas trop de haters, c'est que vous avez pas trop de fame. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de, c'est un
truc de vraiment, proportion un entre,
ouais. C'est ça, il y a une espèce de ratio, voilà, à l'ère de l'internet et de l'anonymat total où les gens se lâchent, voilà, parce qu'il suffit de se faire un compte de merde pour balancer tout ce qu'on a balancé. Et donc, en vrai, je crois que j'aime bien la place mi-ombre, mi-lumière. J'adore être dans la lumière et j'adore la scène, en fait, surtout. J'aime vraiment la scène et j'aime la rencontre avec les gens, en fait. Pour ça, le concert, je trouve ça toujours incroyable parce que c'est pas la vie de tous les jours. C'est un moment unique, quoi. C'est un moment spécial. Et voilà, et c'est collectif et on partage la musique, on partage, je sais pas, il y a un truc assez vraiment absolu, quoi. La musique, ça porte vraiment, quoi. C'est vraiment puissant, quoi. Ça paraît paradoxal, mais je continue de le dire parce que régulièrement j'ai envie d'arrêter, mais régulièrement il y a des chansons qui viennent et c'est toujours aussi magique, quoi. Quand une chanson vient, enfin moi ce qui me fait toujours kiffer, c'est toujours de me dire waouh, j'ai toujours cette quête d'écrire la chanson, mais en cherchant la chanson, bah je fais des chansons et puis il y en a avec le recul ou que je trouve plus ou moins réussi, mais je continue, je trouve ça toujours passionnant. La construction d'une chanson et qu'est-ce qu'on va raconter et comment on va le raconter et comment à un moment cette chanson rencontre les gens et comment on se rencontre avec cette chanson et comment on partage un truc là waouh que des fois on n'avait pas entendu avant ou alors qui nous fait du bien ou qui nous bouscule
ouais l'inspiration voilà. peut venir de partout en fait
ouais c'est ça.
Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre album, enfin pas votre album du coup, mais votre disque ouais. qui est sorti le 3 octobre.
Ouais. Non, rien de spécial, si ce n'est que c'est pas de dire aux gens où ils peuvent se le procurer. Nous, on l'en vend sur la tournée. Et d'ailleurs, en général, je signe des mots aux gens après le concert. Donc je le ferai avec grand plaisir après le concert au Café Charbon. Donc on les vend sur la tournée, ils sont disponibles aussi dans les magasins Fnac. Mm-hmm. Et je recommande d'appeler avant pour savoir, parce qu'en fait il y a des magasins qui en ont en physique chez eux et puis d'autres où il faut les commander. Mais c'est distribué par les magasins Fnac aussi, voilà. Donc on peut le trouver là ou en concert avec moi. Et quand j'aurai fini la tournée, je les vendrai en ligne. J'ai un site qui s'appelle Big Cartel, le lien il est sur mon Instagram, il y a un lien dans ma bio d'Instagram et un lien d'achat pour d'ailleurs celui-là ou pour mes autres vinyles ou CD voilà et je les envoie un peu partout en France et d'ailleurs aussi à l'étranger, je les signe et, voilà. Je trouve ça cool de le rappeler parce que c'est moi qui gère beaucoup tout ça et donc si les gens veulent se procurer des vinyles à moi ou des CD qu'ils trouvent pas, ils peuvent le faire sur ce site dont le lien est sur mon Instagram. Voilà.
Merci beaucoup, Mademoiselle K, d'être venue au micro de Bac FM. Donc, le 10 octobre, vous serez effectivement sur la scène du Café Charbon à Nevers avant de poursuivre votre tournée un peu partout en France. Et je le rappelle aussi, votre 45 tours est sorti donc ce 3 octobre avec votre titre « J'ai bugué à mon moitié ».
Merci beaucoup. Et bah, je suis contente de venir jouer dans la Nièvre, ça fait longtemps.
C'est vrai, et puis c'est vrai que c'est quand même assez chouette la Nièvre.
Ouais. Bah, j'ai ma meilleure amie qui vit là-bas, donc voilà, je pense à elle en vous parlant, et elle sera là d'ailleurs au concert, donc c'est chouette.
Et bah donc ouais, n'hésitez pas à vous rendre au Café Charbon donc ce 10 octobre, et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, on vous donne rendez-vous pour un prochain Écho du Charbon la semaine prochaine, à bientôt.
Au revoir.
Je suis ta meuf, un jour sur sept, bien disposée, une fois sur deux, c'est le maximum qu'on peut se donner. C'est l'amour rationné. J'suis ta meuf quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est plus si bien. J'suis ta meuf les jours fériés. Les jours ouvrables trop compliqués. Vacances de couple depuis la rentrée. C'est l'amour par micro-bouchée. Ma vue c'est à quatre pattes, j'ai perdu 15 degrés. J'ai le côté droit entièrement gelé. C'est drôle de rire. Plus
plus qu'à moitié. La vie défile en petit chaos, dedans mon corps en petits morceaux. C'est trop d'amour à recoller. Ma vue c'est la vie en puzzle. Ma vue c'est les pièces qui gravitent autour de mon cœur triste. La vie défile en petits carreaux. Nos vies doucement se compartimentent. La vie défile dans des petits carreaux. Les gens dans leur compartiment. Les images en négatif, on infiltre. Séparation, je mange un gâteau impossible. T'es devenue ma moitié inaccessible. J'aurais voulu être une meilleure écrivaine. Réécrire certains chapitres. Sont pas fermés, mais rendez-moi la belle moitié. Ah, quel amour. Au revoir, la vie commune et sans rancune.